suivez attentivement ce que publie la Civiltà Cattolica. Cela vous donnera une juste idée de ce qui se passe au Vatican. Le conseil est donné par un vaticaniste aguerri et s'appuie sur le statut particulier de cette revue bimensuelle. Rédigée en italien par une petite équipe de jésuites, la Civiltà Cattolica est en effet relue avant impression par des membres de la secrétaire d'État. Les sujets abordés sont variés. Ainsi, au sommaire du dernier numéro, daté du 7 avril, des approfondissements sur l'Afghanistan entre islamisme et démocratie, la phénoménologie de l'esprit de Hegel, 200 ans après, ou encore « Qui est Jésus de Nazareth ?», 200 ans de recherche sur le Jésus historique, un article qui précède de quelques jours la sortie de « Jésus de Nazareth », le livre de Benoît XVI. Pas question de parler de voix officielle du Vatican, selon le père Gianpaolo Salvini, directeur de la revue, qui précise que la Civiltà Cattolica n'est pas non plus la voix officielle de la Compagnie de Jésus. Les contacts réguliers entre la rédaction et la secrétaire d'État, l'objet de la revue, a accompagné le magistère de l'Église, faire œuvre de vulgarisation, témoigne en tout cas d'une relation de confiance entre les jésuites et le Vatican. Le père Salvini revient sur la naissance de la Civiltà Cattolica.
La revue, la Civiltà Cattolica, est née en 1850, quand le pape s'est trouvé en exil à Naples, à Gaeta, avec la République romaine proclamée par Mazzini et Garibaldi à Rome. Et alors, dans un contexte de danger pour la catholicité et pour l'Église, le pape voulait avoir un journal qui pouvait défendre les raisons de l'Église, de la religion, contre une Italie qui allait s'unifier et se faire contre l'Église avec les idées de la Révolution française, enfin.
Alors, pourquoi est-ce que le pape a choisi des jésuites pour s'occuper de cette revue ?
Je pense qu'il connaissait très bien des jésuites, comme le père Curci de Naples, qui était le fondateur, avec un autre père qui était du Piémont, frère d'un premier ministre italien. Et alors il a confié cette tâche aux jésuites, qui déjà par définition sont liés au Saint-Siège et au pape, avec un vœu particulier.
En quoi est-ce que la revue reflète l'activité intellectuelle des jésuites ? Vous vous intéressez à de nombreux thèmes ?
En général, on a toujours cherché d'accompagner la réalité, l'histoire, la politique, l'économie, vue d'un point de vue chrétien. Et ça est valide aujourd'hui, comme il y a un siècle et demi. Mais le ton a changé très profondément.
Alors, on sait que la revue est relue par la secrétaire d'État. Est-ce que cela signifie que la ligne éditoriale est également établie à la fois par les rédacteurs jésuites et par des personnes de la secrétaire d'État ?
La revue remet avec son autorité propre et responsabilité propre. Alors, ça signifie que nous ne sommes pas une voix officielle ni officieuse du Vatican. Mais, comme disait le cardinal Casaroli, qui était le secrétaire d'État, la presse peut savoir que vous n'êtes pas notre voix officielle, mais que vous ne publiez rien contre notre opinion. Et alors, en général, la ligne éditoriale est faite ici, par le directeur, ou mieux, par la rédaction, qui choisit, définit la ligne éditoriale. Et quelquefois, on reçoit des conseils, mais en tout cas, la responsabilité reste à nous. Et bien sûr, on essaie d'accompagner la ligne de l'Église. Par exemple, la ligne éditoriale de la revue, pendant un siècle, a été, selon la mode, très combative, très forte, agressive contre les adversaires de l'Église, qui étaient la maçonnerie, et puis le communisme, un peu moins le fascisme, etc. Tandis qu'après le concile, ou mieux avec le concile, la ligne et le ton a changé. C'est-à-dire, on cherche plutôt d'accompagner les phénomènes humains qui sont en cours, l'histoire, et voir les raisons des autres, tout en conservant une identité très forte, de proposer nos raisons et aider les gens à se documenter, s'informer pour une vision chrétienne du monde.
En même temps que ces approfondissements que vous faites, cela ne vous empêche pas de prendre des positions très fermes. Je pense notamment à la réaction que vous avez eue par rapport à la famille et par rapport au gouvernement Prodi et ses projets de loi sur la famille.
Oui, en général, nous prenons des positions. Quelquefois, on ne prend pas trop position, parce que justement, même le Vatican ne sait pas clairement quelle position adopter, ou préfère ne se pas mêler dans une bataille purement politique. Et alors, même la revue documente, informe, mais sans prendre position. Mais comme nos articles n'engagent pas directement la responsabilité du Vatican, alors c'est plus facile pour nous de prendre position que pour l'Osservatore Romano. Et alors, quelquefois, les articles sont tout à fait les nôtres, mais d'autres fois, il y a déjà une suggestion pour avancer des ballons d'essai qu'on peut démentir. Parce que si ça ne marche pas, la responsabilité, c'est jésuite.
Donc, concrètement, ces relectures d'épreuves se passent, vous allez avec les textes et vous allez avec vos interlocuteurs.
On envoie les textes en avance à la secrétaire d'État. En général, pour tradition, je ne sais pas pourquoi, c'est la deuxième section, c'est-à-dire la diplomatie vaticaine. Mais je pense que aussi d'autres vont lire nos épreuves. Et le directeur fait chaque fois un pèlerinage à la secrétaire d'État pour recevoir de bons conseils. La presse italienne exagère toujours cette relation et nous transforme dans les rois du mythe Mida qui transformait en or tout ce qu'il touchait. Mais ça ne correspond pas à la vérité. Et alors je voudrais dire qu'il y a une collaboration pour accompagner la ligne, et surtout dans la politique étrangère, dans l'ecclésiologie, dans les grandes questions morales, du Vatican et du Magistère. La revue est née pour ça.
Vous avez rappelé au début de cet entretien que la revue a affronté des mouvements politiques, des idées, de manière assez frontale. Aujourd'hui, quels sont les problèmes de société auxquels vous voulez répondre?
La revue est diffusée aussi à l'étranger, mais surtout d'un public italien. Et alors, la revue a toujours accompagné particulièrement l'histoire italienne. Et alors, aujourd'hui, le problème est plutôt le problème de la religion dans la société. Tous les problèmes moraux, dont on parle presque tous les jours, les problèmes de la guerre et de la paix. Et puis, le problème plus fort, je pense, qu'avant, du relativisme. Et puis, les relations avec les autres religions, surtout les grandes religions. Et pour ceux qui regardent la revue, je pourrais ajouter qu'avec des papes qui ne sont plus italiennes, la tâche de la revue peut changer dans le siècle dernier, parce que les papes étaient italiens, ils contrôlaient et corrigeaient directement les épreuves, parce qu'ils voulaient donner des lignes, des conseils, ils connaissaient les hommes politiques italiens, etc. Tandis qu'avec Jean-Paul II et Benoît XVI, le pape ne connaît plus les querelles italiennes, il ne veut pas les connaître, et peut-être c'est mieux. Et alors même l'influence pour ces sujets sur la revue va se réduire. Tandis que va augmenter l'importance des relations pour l'écuménisme et avec les autres religions qui intéressent bien plus l'Église actuelle.
Donc une entrée, enfin une ouverture vers l'universalisme,
oui,
toujours plus,
oui,
qui était déjà présent mais encore
qui
plus.
Qui est dans l'atmosphère de notre temps.